Bonjour et bienvenue dans La Fosse Claire. Shocking, nombre de Britanniques jugent déplacés et malvenus chez les révélations du prince Harry dans ses mémoires. Révélations sur sa virginité, sur sa prise de cocaïne, sur ses disputes physiques avec son frère. La Fosse Claire est intitulée Harry, les malheurs d'un prince et un sacré business. Nos invités, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph, auteur de William et Harry, dernière chance pour la couronne, c'est aux éditions Télémac. Florentin Collomb, vous êtes journaliste au Figaro, vous avez été correspondant à Londres. À lire aujourd'hui dans le Figaro, ce matin, cet article, hein, Harry et Meghan, une prospère petite entreprise. Et puis Stephen Clark, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste britannique, vous vivez à Paris, et je rappelle votre livre, Elisabeth II. Où l'humour souverain, c'est aux éditions Albin Michel. Donc, on l'a dit, comme un parfum de scandale avec cette autobiographie du prince Harry qui publie ses mémoires à 38 ans. Quelques extraits ont été dévoilés parce que les libraires espagnols ont brisé l'embargo, comme on dit. Harry raconte notamment une violente dispute avec son frère William. Quelques extraits des morceaux choisis avec Marion Vigreux.
Ce sont de nouvelles confidences dont la famille royale se serait bien passée. Dans son autobiographie, Le Suppléant, le prince Harry évoque tour à tour sa prise de cocaïne dès ses 17 ans, son opposition au remariage de son père, mais aussi les relations conflictuelles avec son frère William et le récit d'une violente dispute.
J'ai vu la rage dans ses yeux. Il voulait que je le frappe à mon tour, mais je ne l'ai pas fait.
Avec ses révélations sans filtre, la presse britannique l'accuse de causer la plus grave crise de la monarchie depuis 30 ans. Les Britanniques, eux, sont partagés.
J'ai vraiment envie de lire ses mémoires et j'ai beaucoup d'empathie pour lui.
Il dit sûrement la vérité, mais je ne pense pas que cela mérite d'être révélé et débattu en public.
Dans cet ouvrage, le prince Harry, qui a servi pendant 10 ans dans l'armée britannique, révèle également avoir tué près de 25 talibans durant ses missions en Afghanistan. La couronne britannique ne fait aucun commentaire. Ces révélations tombent en effet en pleine période de transition pour la famille royale. Période délicate pour Charles III, qui doit réussir la succession de la très populaire reine Elisabeth.
Alors, Anne-Elisabeth Moutet, le livre sort demain. On peut imaginer que ça va être un succès de librairie. Pourquoi est-ce que on pensait tout connaître sur la famille royale? Pourquoi est-ce que ça crée autant de remous, la sortie de ces mémoires à 38 ans?
Alors, à 38 ans du prince Harry. C'est bientôt 40. Je veux dire, c'est un grand garçon, on pourrait dire, et il continue à se plaindre de choses absolument triviales comme des changements de place à dîner, une querelle avec son frère où son frère l'a poussé, il a trébuché, il est tombé sur le bol du chien, enfin des trucs qui sont tragi-comiques. Mais surtout, il a donné des interviews à la presse, à la télévision britannique et américaine cette nuit pour les Américains et hier soir pour les Britanniques, et il rajoute des choses, il dit des choses épouvantables sur Camilla, dont il dit ça allait être la mauvaise reine, enfin et il dit qu'elle a organisé une campagne de communication pour arriver jusqu'à la couronne, ce qui honnêtement ressemble pas vraiment au caractère de Camilla. Il redécrit une enfance dont les gens qui l'ont suivi, y compris moi d'ailleurs, pendant des années, ça correspond pas à la réalité, c'est-à-dire qu'il est parti dans une espèce de trip où, comme beaucoup de gens qui font une psychanalyse ou une psychothérapie, il en fait même, il a plus thérapeute, il revit toutes sortes de choses qui reviennent, il explique ce que lui est...
Comme un ado qui tape sur ses parents.
Comme un ado, il tape sur ses parents, enfin il tape pas sur sa mère, sa pauvre mère évidemment, oui. Puisque sa mère c'est le traumatisme de départ, c'est cet enfant de 12 ans qu'on voit suivre avec son frère de 15 ans le cercueil de sa mère à travers Londres. Il commence le livre d'ailleurs par ce récit, et évidemment il est traumatisé, ça c'est sûr, mais ensuite c'est quelqu'un qui au lieu de se dire j'ai un traumatisme, je m'en occupe et... Je vis dans le présent. Il se resserre de ça. Alors, on peut ensuite spéculer, on va peut-être le faire tout à l'heure, sur le fait que toute cette culture psychologisante californienne, c'est pas quelque chose de naturel aux Britanniques en général et à la famille royale en particulier, et que donc, ça, c'est ça, sa transformation en époux américain d'une personne qui a elle-même des idées et des opinions très claires sur la famille royale, aucune d'entre elles très gentille.
Stephen Clark, oui. C'est vrai que pour les Britanniques, il y a un côté... d'ailleurs, c'est le titre de l'émission, un sacré business. La famille royale, on n'a pas coutume qu'elle monnaie, si on peut dire, sa célébrité. Et ça, comme le suggérait Anne-Elisabeth Moutet, les Britanniques accusent la culture hollywoodienne ou américaine de Meghan, qu'ils disent qu'il faut faire du fric avec tout, y compris avec ton statut de prince.
Oui, bah, il ne faut pas oublier que la division dans la famille a commencé quand Harry et Meghan ont voulu lancer leur business avec l'écusson royal sur le business avec un nom royal. Et la reine, à l'époque, elle a dit non, vous n'avez pas le droit parce que dans les règles de la famille royale, on n'a pas le droit de faire du business avec le nom et le statut de la famille royale. Et donc, vu que
je cite le Sun, hein, le prince Harry a jeté sa propre famille sous un bus pour des millions de dollars.
Oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas pu lancer leur business aux États-Unis de louez-moi prince pour une soirée. Donc,
ils voulaient faire ça.
Oui, oui.
Ah, mais absolument.
Oui, louez-moi prince pour une soirée. Un peu de famille royale.
100 000 dollars à la conférence et tout ça. Et en tant que prince. Donc, mais avec le tampon royal sur le site web, vous allez louer la famille royale. Donc, la reine a dit non, ça, c'est pas possible. Donc, Harry et Meghan ont dû lancer une autre sorte d'industrie. Et effectivement, c'est l'industrie de la confession. C'est l'industrie un peu Kardashian. Ça veut dire, on a une famille célèbre qui vous intéresse. Donc, on va parler que de ça. On va lancer toutes les histoires dans la presse. Et il faut admirer les éditeurs. Comme par hasard, c'est le même éditeur que moi, mais je ne vais pas toucher une part, mais malheureusement. Mais je dois admirer, j'admire leurs attachés de presse qui ont placé cette histoire partout. Tout le monde en parle. C'est numéro un en Angleterre et aux États-Unis. Je veux dire, c'est un énorme succès de business. Mais c'est le deuxième business, parce que le premier business a été... empêché par la reine. Donc, forcément, il y a une machine derrière financière à 20 millions pour un livre.
Pour 4 livres.
Il s'est engagé sur
4 livres. Ils ont comparé le deal avec le deal Obama. Et donc, c'est nous les nouveaux Obama, en fait. C'est ça, Harry et Meghan, c'est ça. C'est-à-dire l'autobiographie de célébrité. Et ils ont une chance d'avoir... Tous les personnages là-dedans sont connus. Donc, c'est, forcément, ça va se vendre. Donc, je suis un peu cynique, peut-être. Et je pense que Harry fait une vraie... Comme l'a dit Elizabeth, il fait une vraie thérapie en public. C'est très californien. La genre victimisation de soi et tout ça. C'est très... Mais il est sincère. Mais il fait partie d'un super business.
D'accord. Et alors, il est sincère. Et est-ce qu'il choque par justement cette thérapie en public? Florentin Collomb, tout à l'heure, Anne-Elisabeth Moutet rappelait que Harry, c'était cet enfant. On se souvient de ces images de lui. Il avait quoi, 13 ans, hein, quand il
12 ans.
12 ans, quand il suivait le cercueil de sa mère. Hier, il y avait Philippe Toll qui disait que c'était ce petit enfant que tous les Anglais avaient envie de prendre et de consoler dans ses bras. Et aujourd'hui, je vois un sondage, 59% des Britanniques disent avoir une opinion négative du prince Harry. C'est devenu cet enfant gâté pleurnichard.
Oui, c'est un comble parce que c'était le favori de la famille royale il y a quelques années, il y a 3-4 ans, avant tout ce psychodrame et ce divorce en public de Harry avec sa propre famille. C'était le favori. Il avait eu des phrases quand il était jeune, mais on l'avait pardonné. Il était rentré dans le rang. Il a fait des années de carrière militaire où il s'est relativement bien comporté. Il a fait les Invictus Games, qui étaient une sorte de Jeux olympiques pour les vétérans blessés de l'armée britannique. Donc, il avait reconquis son rôle. Mais en fait, vous demandiez pourquoi ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que c'est la famille royale britannique. Ce serait la famille royale norvégienne ou danoise. Personne ne... Vous ne feriez pas une émission sur le sujet. Et la famille royale britannique, elle a un récit national. C'est déjà de la communication en elle-même. C'est un récit ponctué d'événements heureux ou malheureux, de mariages, de couronnements, de naissances. Et puis, il y a aussi l'incontrôlable, les divorces. La reine a vécu ça durant son règne. Hein. Les divorces, les ruptures, les vilains petits canards. Et aujourd'hui, le vilain canard, c'est même pas le prince Andrew qui pourtant a fait pire, hein, a une réputation quand même plus contestable que celle de Harry. Aujourd'hui, c'est Harry. Et Harry, il s'est séparé de sa famille, mais il est conscient qu'il a un business, en effet, à faire. Et c'est un nouveau business, c'est un business de l'entertainment, du divertissement. On voit Netflix, Spotify, l'édition, et toutes les chaînes de télé américaines. Les réseaux se sont engouffrés dans la brèche et il en donne pour l'argent des investisseurs. Il y a même une rumeur qui dit que lors d'une première version de son livre, l'éditeur a dit ça, c'est pas assez croustillant, il nous en faudrait un petit peu plus. Donc il nous raconte son dépucelage, il nous raconte sa cocaïne, avoir tué des talibans, etc.
En termes d'exemplarité, racontez. Alors, la phrase sur la cocaïne, bien sûr, j'ai pris de la cocaïne. J'étais un jeune homme de 17 ans, prêt à essayer tout ce qui pouvait modifier l'ordre préétabli.
Oui, mais on le savait déjà, parce que les tabloïds du groupe Murdoch en particulier espionnaient son téléphone, comme ceux de plusieurs membres de la famille royale. Tout ça avait déjà fait la une des tabloïds, donc on le savait que Harry avait pris de la drogue, qu'il a été nu dans des soirées de poker, de strip poker, qu'il est allé dans une soirée habillé en nazi, etc. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, ou ce qui présente un certain intérêt, disons, c'est que ça vient de lui-même, de sa bouche. Donc il donne sa version de tous ces événements qu'on a plus ou moins suivi au fil des années. Donc en fait, oui, en effet, c'est un personnage public, médiatique, très distrayant, on peut dire.
Est-ce qu'on peut néanmoins, vous parliez, c'est une propre thérapie, on peut concevoir, accepter et parfaitement comprendre que c'est quelqu'un qui a souffert. Quand il dit le nom du livre, Le Suppléant, pourquoi ce nom ? Bien, c'est en référence à ce qu'aurait dit Charles à la naissance Charles, le prince Charles, qui est à l'époque prince, a dit à Diana, magnifique, désormais tu m'as donné un héritier, ça c'est William, et un suppléant, mission accomplie. Lui, il était, c'est ce que disait le JDD hier, le numéro 2, la doublure, la pièce de rechange.
Alors, the heir and the spare, l'héritier et celui en réserve, sur le banc effectivement des suppléants, si par hasard il arrive quelque chose à l'héritier. C'est très classique, mais c'est une expression anglaise depuis des siècles, puisque tout le système, bon, le système royal en général et le système britannique, y compris le système de l'aristocratie britannique, qui est encore, qui fait partie de tout l'ordre constitutionnel. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas juste en train de parler de trucs décoratifs et terminés. Le monarque, le rôle de la famille royale, le financement par l'État, tout ça, c'est parce qu'il y a un rôle constitutionnel. Donc, on a un héritier, puis on a quelqu'un qui peut remplacer l'héritier. Quand ce sont les grandes familles ducales, etc., comtales britanniques, comme celle du père de Diana, ça veut dire aussi hériter une grande fortune, des tableaux de maître, un château.
On peut concevoir que ce soit difficile à vivre que d'être le suppléant.
Alors, oui, on a vu l'exemple de la princesse Margaret. C'était la pas facile d'être la sœur de la reine. II. Mais c'est vrai aussi qu'au bout d'un certain... D'abord, Harry, il n'est pas seul. Je veux dire qu'il y a des oncles. Il y a des gens dans la famille qui sont aussi les petits-enfants de la reine, les deux princesses. Maintenant qu'il n'y a plus d'ordre mâle ou féminin ou masculin dans la succession, les enfants du prince Andrew, qui sont des jeunes filles qui ont fait des meilleures études que lui et qui ont l'air de se tenir beaucoup mieux. C'est comme ça. Et ensuite, on s'habitue. Encore une fois, que quelqu'un de 20 ans ait des problèmes et que quelqu'un de 38 ans, sauf pour des raisons financières évidentes. Mais dans son cas, je pense que c'est surtout une espèce de remarchage de situation à l'infini, parce qu'il est dans une espèce de cercle où il arrive, dont il n'arrive pas à sortir, et dont je dirais que pour son ménage et son business, ça n'est pas lucratif d'en sortir. Alors de là à dire qu'on le pousse dans cette espèce d'autoconfession éternelle et de réécriture de choses qui se sont passées beaucoup moins mal. Et il y a tous les films d'actualité, il y a tous les documents, il y a tous les souvenirs des gens autour de lui pour le dire, il n'était pas horriblement malheureux au mariage de son père. C'était affreux. Mon frère et moi, on a prié notre père de surtout pas épouser Camilla. C'est bonjour pour Camilla, qui devient absolument la sorcière de l'histoire, la malheureuse. Et il raconte à quel point il était lugubre au moment où ils se sont mariés. Il n'a rien fait. Alors on retrouve la télé a évidemment retrouvé Harry Hillard pendant le mariage en train d'accrocher des casseroles et un Just Married sur la voiture de son père et de Camilla. Enfin, toutes sortes de choses qui faisaient bien.
C'est qu'il n'était pas si malheureux.
Qu'il n'était pas si malheureux que ça. Mais je pense qu'il croit vraiment ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'il ment. Je pense qu'il est absolument persuadé que toute cette espèce de ce poids énorme, qui est quelque chose qui est d'intime et qu'on ressort en thérapie, et qui est quelque chose que tous les thérapeutes sérieux vous diront de jamais sortir en public.
Ah oui.
Ça ressort en public.
Florentin Collant, c'est vrai qu'évidemment, on comprend la souffrance que d'avoir perdu sa mère quand on a 12 ans. Et ce qu'on apprend dans ce livre, c'est qu'alors pour le coup, avec son frère, William, tous les deux voulaient qu'on rouvre une enquête pour éclaircir sur les circonstances de la mort de sa mère, Lady Diana. Sous-entendu, et il le dit dans le livre, il n'est pas sûr de la version officielle qui consiste à dire que c'est un accident de la route par un chauffeur un peu alcoolisé qui roulait trop vite sous le pont de l'Alma. Il révèle même d'ailleurs qu'il a refait le trajet de l'hôtel Ritz jusqu'au pont de l'Alma et il dit il n'y a pas matière à avoir accident. Donc il y a une chose que d'avoir perdu sa mère et en plus d'avoir des doutes sur ce qui s'est réellement passé, peut-être qu'on ment.
Ben, ça fait partie du processus de deuil de chacun. Hein. Toute personne qui perd quelqu'un d'un accident va mettre en cause, enfin va rechercher des causes de cet accident et de ce décès. Les versions complotistes en fait sur la mort de Diana ont beaucoup circulé au Royaume-Uni, etc. Il y a eu enquête après enquête. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de crédit. Simplement, s'il le remet dans son bouquin, c'est peut-être pour redonner encore quelques éléments croustillants. Mais je suis pas sûr qu'il soit convaincu de ça aujourd'hui. Mais ça lui donne un certain crédit de remettre cette thèse sur le tapis. Ce qu'on peut dire sur en fait tout ça, c'est que la famille royale, elle a un petit côté un peu exhibitionniste en réalité, puisque tout ce qu'elle fait dans sa vie, elle le montre au public. Hein. On montre les naissances, on montre les mariages. Tout le peuple britannique est censé suivre tous ces événements de la vie qui sont des événements en dehors d'un couronnement, des événements de la vie privée. Et Harry, aujourd'hui, croit que tous ces problèmes sont au cœur de l'actualité mondiale ou de l'actualité britannique et intéressent. Alors, c'est vrai qu'ils intéressent parce qu'on est dans le soap opera, etc. Mais il y a un côté un petit peu indécent et il n'a pas compris le décalage entre tout ce qu'il dit et la vie quotidienne des Britanniques. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais le moment ne pourrait pas être plus mal choisi, en fait, de décalage avec la vie quotidienne des Britanniques qui sont soumis à l'inflation, aux pénuries, à des factures de chauffage qui s'envolent,
on va en parler de ça,
à des problèmes de grève permanente, etc. Et lui, tout ce qu'il re-raconte, ces problèmes qui sont aussi légitimes soient-ils. Hein. Moi, je ne mets pas en question, on ne le connaît pas plus, Anne-Elisabeth, que moi, donc on ne sait pas ce qu'il a vécu réellement et il a le droit à sa version des faits. Le problème, c'est que c'est un petit peu déplacé aujourd'hui et les Britanniques sont assez agacés par ça.
Et Stephen Clarke, c'est vrai qu'être parti en exil en Californie pour fuir cette médiatisation qui, dit-il, a tué sa mère et dont serait victime sa femme, pour ensuite nous sortir ce bouquin et donner des interviews, là, il y a un paradoxe compliqué à justifier, non ?
Oui, complètement. Je veux dire, il y a toujours eu ça depuis. Princess Diana, d'ailleurs, qui disait qu'elle souffrait de l'attention des médias tout en cherchant des interviews et en vraiment plaçant ses idées dans des interviews grand public, il y a toujours ce jeu avec la famille royale d'utiliser les médias, même la façon maintenant que la famille royale ne fait pas de commentaires, c'est une tactique genre des médias, on demande, et Harry accuse la famille royale de donner des indications à la presse, mais sans faire de conférences de presse et tout ça. Genre,
faire fuiter les infos sur sa femme.
Ouais, mais il y a aussi, je suis anglais, donc je suis un peu sceptique sur les Californiens, mais c'est vrai qu'il y a un truc très média américain dans toute cette histoire de tout révéler et d'accuser la presse de tout révéler. Je veux dire, et d'être même complotiste. Harry, il dit même dans le livre qu'il ne croyait pas que sa mère était morte avant de voir des photos de l'accident. Je veux dire, il y a un truc complotiste là qui est vraiment très à la mode en ce moment parce que les Américains qui ne croient pas aux élections, et Donald Trump qui lance des fake news tout le temps, et lui-même, il surfe sur cette vague-là en disant...
Alter-vérité,
oui, comme on dit. Oui, c'est ça. Il dit, moi aussi, j'étais victime de ça, mais c'est très à la mode. C'est des façons de penser qui sont très à la mode. Et si on est un tout petit peu cynique, on voit une sorte d'engin psycho-journalistique mais qui dit non, je ne suis pas du tout journalistique, je révèle la vérité, mais tout, ça a un côté super manipulateur, tout ça.
Oui, Elisabeth Moutet.
Alors, ce qu'il a dit, et ça me touche au contraire, il dit « Pendant des années, j'ai cru que ma mère avait joué un tour à tout le monde et qu'elle avait manipulé, qu'elle avait fait cet accident pour faire croire qu'elle était morte et vivre enfin tranquille et dans le calme. » Et ça, au contraire, ça, que ce petit garçon ait cru à ça pendant plusieurs années, « Maman n'est pas vraiment morte », ça me touche énormément.
C'est vrai. Alors justement, sa mère, il fait un parallèle entre sa mère et sa femme qui souffre de cette surmédiatisation. Bah justement, je vous propose de revoir un court extrait, enfin un sujet qui avait été diffusé en novembre 1995, bien sûr, suite à l'interview qu'avait accordée Lady Di à la BBC pour raconter ô combien c'était difficile de s'intégrer au sein de cette famille royale. On revoit ce sujet du 21 novembre 1995, c'était sur France 3.
Il y a Hier soir, les Anglais ont assisté à un bal et masque à l'anglo-saxonne que l'on aurait pu baptiser Lady Di ou les affres d'une princesse. Grande fille riche et malheureuse, Diana a distillé sur le ton d'une tristesse infinie ses confidences. Oui, elle a été boulimique dans le secret pendant des années. Oui, elle a trompé son mari avec un professeur d'équitation. Hier soir, pour l'occasion, les Anglais s'étaient calfeutrés chez eux ou dans les pubs pour écouter et parfois épier sur grand écran les malheurs de leur princesse. Ces jeunes filles qui ont sans doute un jour rêvé d'être princesses ont pu constater hier soir que la réalité est peut-être beaucoup plus cruelle qu'elles ne l'imaginaient.
Je pense qu'elle joue un peu trop à la victime et qu'elle fait vibrer un peu trop la corde sensible.
Effrayée par cette interview qui a secoué Buckingham Palace, la reine Elisabeth, sans doute très shocking, mais qui se doit de recoller les morceaux, a proposé un entretien à Diana pour revoir son rôle officiel et pour la soutenir en tant que membre de la famille royale. Il aura fallu 20 millions de témoins pour qu'au palais on s'intéresse enfin à la jolie princesse prisonnière de sa tour d'ivoire.
Florentin Collomb, c'est quand même l'autre enseignement de ce livre, c'est qu'il dit « ma mère a beaucoup souffert de l'institution, quoi, la firme ». Ma femme, de la même façon, en a souffert, et enfin, il l'estime. Quand il dit « je veux une famille, pas une institution », on peut le comprendre, ça aussi.
Oui, oui, mais il y a quelque chose de très profondément oedipien, hein, quand même, où il compare sa femme à sa mère. C'est même un petit peu flippant pour elle, Meghan, hein, parce que quand on voit la fin de oui. Diana, le fait qu'il n'arrête pas d'évoquer, de redouter le même sort pour sa femme que le sort qui est arrivé à sa mère, il faut absolument qu'il sorte de là. Alors qu'il veuille une famille et pas une institution, bah, il n'y peut rien. Il fait partie d'une institution, il fait partie d'un système. Il veut une famille, mais il est parti vivre à l'autre bout du monde. Il dit « je veux récupérer mon père et mon frère », mais il les insulte à longueur d'interview. Donc, il faut savoir exactement ce qu'il veut. S'il voulait continuer à avoir sa famille, il aurait pu rester en Angleterre et faire profil bas. Hein. Personne ne lui demande de s'exprimer dans les médias. Donc, il ne s'y prend pas très bien. Hein. On va dire qu'il a encore quelques nœuds à dénouer.
Anne-Elisabeth Moutet, ce sera difficile parce qu'il dit vouloir renouer le dialogue avec son frère. Alors d'ailleurs, on apprend au passage dans le livre, il dit « l'idée de me déguiser en nazi », en fait, ça vient de mon frère d'ailleurs.
Mon frère est de Kate. Parce
de Kate.
Il n'aime pas sa belle-sœur, ou plus exactement, Kate et Meghan ne se sont pas très bien entendus dès le départ, essentiellement parce que Meghan pensait qu'elle avait le rôle d'une star à Hollywood, elle s'est rendue compte qu'elle était la
figurante.
Femme justement du suppléant et pas celle du futur roi. Et ensuite, il y a une série de...
C'est la comédie humaine, en fait.
Ensuite, hein, hilarant. Voilà. C'est Balzac revu
voilà, la version
par nous deux.
Anglaise.
Et il y a des... enfin, c'est vraiment au niveau des Harlequins, enfin des parce que il y a vraiment des histoires de Kate a été embêtée de devoir prêter un rouge à lèvres à Meghan, enfin des trucs pas racontables et encore une fois qu'on ne devait pas raconter dans quelque chose, dans des interviews pareilles et dans un livre pareil. Moi je pense pas que Meghan est piégée par la comparaison avec Diana. Je pense que Meghan a totalement entretenu la comparaison avec Diana, qu'elle a très bien étudié, y compris la fameuse interview que les deux frères ne voulaient pas voir à la télé, c'est raté. Son maquillage chez Oprah Winfrey, essentiellement, elle reprend tous les codes de la fameuse interview à la BBC de 95 de Diana, et je pense qu'elle le fait exprès. Je pense qu'au contraire, elle s'est bien rendue compte que son mari avait subi un traumatisme et qu'elle s'inscrivait dans la même chose. Donc je pense que l'idée, je pense que Harry cherchait de toute façon une femme qui a 2 ans de plus que lui, etc. Donc quelque part, il y avait dès le départ un tropisme, mais je pense aussi que c'est quelque chose que Meghan encourage. Quand elle a dit dans l'interview avec Oprah Winfrey qu'elle avait fait des tentatives de suicide et que personne ne s'est occupé d'elle, alors qu'on vient d'apprendre dans l'interview de Harry que après cette bagarre avec son frère, il avait immédiatement téléphoné à son psy. Il avait évidemment accès personnellement et en tant que prince à des psys, puisqu'il s'occupe de santé mentale, c'est une partie des œuvres de bienfaisance dont il s'occupe. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un calcul de quelqu'un qui n'a jamais viré ses avocats, n'a jamais viré ses agents, n'a jamais viré ses impresarios à Hollywood, et qui, quelque part, n'avait peut-être pas envie de rester dès le départ.
Stéphane Clerc, comment imbriquer la reine Elisabeth dans tout cela? D'abord, est-ce que la publication de ce livre vient interrompre une période de deuil, de retenue, qui a suite à la mort de la reine Elisabeth II? Et est-ce qu'il aurait sorti ce livre du temps de sa grand-mère, avant la mort d'Elisabeth II?
Oui, c'est une bonne question, parce que la reine était assez intouchable. Mais c'est...
Et aussi, elle aurait beaucoup souffert de la publication.
Oui, oui, je pense qu'elle a beaucoup, elle a essayé de gérer la crise et tout ça entre William et Harry et avec Charles et tout ça. Et surtout, je pense que puisque la reine, elle était un peu le symbole de cette attitude qui est plus visible chez les femmes de la famille royale que chez les hommes. Ça veut dire que, oui, on a un grand privilège d'être de la famille royale, donc on va faire notre boulot qui est de représenter l'État, représenter la famille royale. Et donc, celle qui fait le plus de boulot, c'est une autre suppléante, c'est Princesse Anne. Elle fait le plus de visites royales de toute la famille. Elle y va ouvrir des écoles, visiter des EHPAD, pas d'histoire. Elle était athlète olympique sur les chevaux. Elle a fait une vie de suppléante sans se plaindre. Et c'est un peu l'exemple que ne suit absolument pas Harry. Andrew aussi, il a dérapé. Mais Edward le fait aussi. Mais je veux dire, il y a des exemples de suppléants. Et la reine, elle a fait son boulot en essayant d'éviter les scandales. Parce que la reine voyait bien que la monarchie, c'est une institution qu'elle voulait absolument défendre. C'était ça qui est venu en premier, avant ses sentiments personnels. Et exactement, Harry n'a pas du tout suivi cet exemple. Peut-être parce que il est chez les Californiens maintenant et il est très moderne. Je veux dire, c'est super moderne. Dans le monde Instagram, tout le monde est victime. Je souffre, effectivement, je n'ai pas le maquillage ou je ne sais pas quoi. Et donc, il est super moderne. C'est un aspect de la famille royale moderne. Mais par exemple, Princess Kate.
Mais royale 2.0, là, comme
oui,
on dit. Là.
Oui, mais hashtag... Kate, elle fait son boulot. Elle sourit, elle D'accord. visite les lieux, elle serre les mains, elle fait son boulot. Sans créer de scandale, et Harry ne fait pas ça. Et donc, les Britanniques sont un tout petit peu fâchés.
Vous aussi, vous avez pris fait et cause hein, pour la famille royale qui fait le boulot en Angleterre contre...
Qui fait un boulot symbolique, un boulot de continuité. En ce moment, il n'y a aucune continuité politique, et c'est la crise, et effectivement, c'est vraiment les grèves...
Mais la famille royale tient bon.
Et la reine, elle tenait bon. Le roi Charles, il essaie de faire la même chose. Ça veut dire juste de rappeler aux gens qu'il y a autre chose que ces politiciens, et que la crise va peut-être finir et puis ça ira mieux après. Et la reine symbolisait cette idée de... Il y a une continuité. Ne vous inquiétez pas trop.
Et alors, Florentin Collomb, est-ce que ce n'est pas autre chose qu'on peut reprocher à Harry? C'est qu'il tire à boulet... Enfin, il balance quand même des choses, sachant très bien qu'en face, personne ne répondra. Parce qu'évidemment, Buckingham n'a pas répondu. Son frère, William, ne répond pas. On imagine pourtant que William, il aurait sûrement deux, trois choses à... Deux, trois révélations à faire sur Harry.
Bah, bien sûr, mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce jeu-là médiatique. Après, ils répondent par d'autres tactiques, hein, en assumant leur boulot, en assumant le poids de l'institution et le symbole de l'institution. Ils sont un petit peu affaiblis par ces révélations quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans une transition délicate ou pas, mais enfin une transition sensible. Après les 70 ans de règne d'Elisabeth II, le roi Charles, il est encore un petit peu en période d'essai, si on peut dire. Hein. Les Britanniques n'ont pas encore formé leur jugement sur quel type de roi il est. Donc l'institution, elle est un petit peu fragilisée de par le moment, et encore plus par ces révélations. Mais ces révélations, en même temps, ça fait partie de la vie de la famille royale britannique. Hein. Comme on disait tout à l'heure, elle se nourrit d'être sur la place publique en permanence. Donc aujourd'hui, c'est Harry. Hier, c'était Andrew. Avant, c'était Diana, comme on l'a dit. Et puis avant, il y a eu Édouard VIII, etc. Donc elle est
c'est
plus
presque
forte.
Bon pour le mythe de la famille qui a un peu de scandale.
C'est une famille vivante. C'est une famille un peu idéalisée d'un certain côté. Donc elle se nourrit de ça. Elle ne peut pas être complètement ennuyeuse et lisse, etc.
Oui, Elisabeth Moutet.
Je pense que ça, toutes ces histoires, l'interview Oprah Winfrey, etc., ça a nui à la famille royale. Mais maintenant, Harry, ça rend service au contraire, parce que c'est tellement enfantin. Et c'est tellement... Il y a un tel décalage entre la richesse évidente, les sommes délirantes dont on parle, 100 millions de dollars de Netflix, 20 millions de dollars de Random House, l'éditeur pour 4 livres, etc., qu'au contraire, maintenant, l'exemple de montré par les autres est parfait. Et la dernière...
Par William, les gens, vous voulez dire, qui reste digne, qui ne rentre pas dans
Charles,
la polémique.
Qui
par
se Charles. Trouve. Charles, il y a quelque chose que Harry cite lui-même... Et ça, il n'en tire pas de leçon. C'est tout de suite après l'enterrement du prince Philippe. Ils se sont rencontrés, les trois se sont rencontrés, c'est encore sous la période de Covid, donc dans le jardin du parc de Windsor, devant la maison où habitaient très brièvement Meghan et Harry. Leur père a dit aux deux garçons, écoutez, par pitié, ne faites pas un enfer de mes dernières années. Parce qu'il y a tout de même 75 ans, le prince Charles. Et plus la famille royale maintenant se tait, et stoïque avec des accusations qui sont de plus en plus enfantines, et plus ça la sert. Ça, ouais.
Alors justement, les premiers pas de Prince Charles, pour la première fois cette année, les Britanniques ont pu écouter les vœux prononcés par leur nouveau roi, donc le roi Charles III. On a du mal à s'y faire, hein, le roi Charles III, évidemment dans la grande tradition de sa mère Elisabeth. De retour sur ses vœux avec ce sujet du 26 décembre, de Maëlys Septembre et de Léna Soudre.
Le roi Charles, visiblement ému pour son tout premier discours de Noël. Debout dans la chapelle Saint-Georges au château de Windsor, où est enterrée la reine Elisabeth II, Charles III rend hommage à sa mère.
Si près de là où ma mère bien-aimée, la défunte reine, repose avec mon cher père.
Un message de près de 10 minutes que la tradition veut apolitique, mais le roi évoque tout de même en image les difficultés économiques et sociales que traverse le pays.
Dans ces temps de grande anxiété et de difficultés, l'essence de notre communauté s'exprime. Que ce soit pour ceux dans le monde qui font face à des conflits, des famines ou des catastrophes naturelles, ou ceux ici qui cherchent le moyen de payer leurs factures et de garder leur famille nourrie au chaud.
Des mots rassurants et un message d'espoir qui ont conquis les millions de Britanniques devant leur télévision.
Je pense que c'est bien que les membres de la famille royale comprennent nos difficultés et s'identifient à nous.
Je suis contente qu'il ait parlé de ça, car tant de monde galère en ce moment. Il se rend compte de ce qu'on vit. Ça nous apporte de l'espoir.
Ces messages de Noël télévisés sont un rendez-vous incontournable des fêtes pour les Britanniques, un rituel qu'Elisabeth II a inauguré en 1957. Tradition immuable, année après année, depuis 65 ans. Un premier Noël depuis la mort d'Elisabeth II, placé sous le signe de l'hommage et de l'héritage laissé par la reine. Le roi Charles a d'ailleurs passé la journée en famille à Sandringham, l'une des résidences préférées de sa mère.
Alors Stéphane Clark, comment jugez-vous les premiers pas de votre roi ?
C'est vrai que c'est très difficile pour lui. Je veux dire, il doit remplacer la reine, qui était la star absolue.
Et il le fait plutôt bien, alors, finalement.
Oui, il le fait très sobrement. Quand il a fait son premier discours, il a parlé que de devoir et qu'il reconnaissait qu'il avait une responsabilité. Son discours de Noël était assez religieux, qui était peut-être une petite erreur pour les Anglais qui ne sont peut-être pas tous croyants. Mais il fait son mieux. Il fait un peu dans l'invisibilité. Il est là. Il fait pas de crise. À part quand il s'est plaint parce que ses stylos ne marchaient pas. Les gens ont trouvé ça assez rigolo. Mais c'est un travail tellement difficile de faire continuer cette famille royale sans la star. Je suis peut-être un peu frivole, mais c'est comme si quelqu'un essayait de remplacer John Lennon dans The Beatles. Je veux dire, est-ce que c'est le même groupe ? On se pose vraiment la question. Ou est-ce qu'après le feu de Notre-Dame, on fait une cathédrale moderne ? Est-ce que c'est la même chose ? Et les gens se posent la question. C'est la même chose ? C'est la même monarchie ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a une sorte d'incertitude. Donc, on va voir lors du couronnement, qui va être un peu plus modeste que prévu, peut-être, parce que les gens sont tellement conscients maintenant que c'est la crise financière en Angleterre, qu'il ne faut pas montrer trop de richesses. Et donc, il a un travail très difficile d'image de lui-même et de la famille. Et il essaie de le faire sobrement, en étant juste visible pour l'essentiel et en restant un peu en dehors des médias, surtout maintenant, quand il le faut. Donc, oui, c'est un travail très difficile qu'il a.
Florentin Collomb.
Oui, on peut aussi se poser quelques questions après ce message de Noël et se demander finalement, certains pourraient se demander au Royaume-Uni à quoi ça sert. Parce qu'on a le chef de l'État quand même, hein, le roi, qui envoie un message qui a été bien vécu par les gens qu'on a vus dans le reportage, de compassion pour les gens qui ont du mal à payer leurs factures. Il a aussi rendu hommage aux gens qui travaillent, aux volontaires, qui travaillent dans les banques alimentaires pour essayer de donner aux gens qui sont dans le besoin. Mais à part ça, que fait l'État pour répondre ce n'est pas le rôle du roi de faire ça, mais c'est quand même un chef de l'État. Donc on peut se demander à quoi ça sert cette institution où simplement on envoie de la commisération et on dit on comprend vos problèmes alors qu'on vit dans des palais absolument immenses où il doit y avoir des factures de chauffage délirantes mais qui peuvent quand même encore payer. Des gens au Royaume-Uni avec tout ce mouvement, dans la foulée de toutes ces interrogations, ces accusations lancées par Harry.
Il y a une montée de ce qu'on appelle les réponses.
républicains, ceux qui disent il faudrait faire comme les Français. Alors, non pas couper la tête, mais passer à autre chose.
On est très loin d'une révolution. franchement, ce genre de choses ne se fait pas comme ça au Royaume-Uni. Mais il peut y avoir un sentiment de scepticisme grandissant. Et cette famille royale aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Hein. Pour être acceptée, il faut que le peuple britannique l'accepte. Hein. Donc, on est à une
avec
phase...
Avec quoi on va l'emplacer ? Parce que le Premier ministre est milliardaire. Ouais. Donc, il est plus riche.
Mais il est là pour le temps d'un mandat, le Premier ministre.
Oui, je sais, mais les Britanniques se disent pas, OK, si on n'a plus de monarchie, qui vient après ? Et on regarde les politiciens et on dit, non, merci.
Alors, Anne-Elisabeth Moutet, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? On évoquait tout à l'heure les monarchies norvégiennes, luxembourgeoises, ou je ne sais, là, qui ont totalement disparu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, disparu, comme le disait Florentin Collomb, le temps qu'on. C'est pas demain la veille qu'on fera une émission sur la famille norvégienne. La famille... Je ne sais même pas s'il y a un roi.
Oui, il y a un roi.
Je ne suis pas très fort. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effacement pour la monarchie britannique ? On parlait du couronnement de Charles III, qu'on nous promet plus sobre, moins faste. On ne sait même pas, d'ailleurs, si Harry y participe.
Sait même qu'il n'y participera pas.
Ce serait le 5 mai.
Il a été invité par son père à assister avec Meghan avant que le livre ne sorte. Et on a appris hier qu'il n'avait pas de rôle dans le déroulement lui-même du couronnement, c'est-à-dire qu'avant, tous les ducs s'agenouillaient et prêtaient serment au roi, qui, n'oublions pas, est également pape, puisqu'il est le chef de l'Église anglicane. C'était le pape François qui disait « Je voudrais rencontrer la reine d'Angleterre, c'est la seule personne qui fait le même métier que moi ». Mais maintenant, ça sera exclusivement William, pour ne pas trop mettre le doigt sur Harry, mais ça veut dire que Harry ne sera pas du tout, n'aura pas de rôle. Il sera dans les
tribunes. Donc on ne sait pas s'il viendra.
Et on ne sait pas du tout s'il viendra, puisqu'il a dit pour le moment « je viendrai », mais si d'abord la famille présente des excuses à moi et Meghan. Alors c'est pas très bien parti et c'est pas très élégant. Je voudrais tout de même rectifier une erreur historique de Florian. La famille royale britannique ne paye pas des factures de chauffage monstrueuses parce que ils chauffent le moins possible leur château depuis des années. Les Anglais...
Mais pour gagner un degré, effectivement, vu la taille des pièces, ça doit coûter cher.
Chauffage, bien avant la crise de l'énergie, les Britanniques considèrent que le chauffage central, c'est un défaut moral.
D'accord.
La reine d'Angleterre, il y avait...
Cette rectification étant faite, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effacement ou qui se fade un peu ?
Qui voulait vous parler de la reine qui fermait les radiateurs électriques à un seul truc et l'électricité partout ? C'est la famille la plus... Enfin, ils sont... de tradition et toute l'aristocratie est comme eux. On ferme tout, la lumière, les radiateurs, on pèle de froid dans leur truc. Donc ça, je voulais le dire parce que... L'effacement de la famille royale, je pense qu'il y a une grande différence entre le travail du gouvernement, le discours du roi qui est écrit par les services du Premier ministre au Parlement, la Chambre des Lords et des Communes, d'une part, et d'autre part, au contraire, le rôle de la monarchie. Alors, on a un peu oublié que sous Margaret Thatcher, la famille royale, qui a le cœur un peu plus tendre que l'avait Margaret Thatcher sur certaines choses, et qui avait peut-être moins une vision de long terme sur l'économie britannique, il y a eu des messages relativement clairs, d'aller dans des soupes populaires, de parler, etc., déjà de la reine d'Angleterre, justement sur le fait que le passage en force de politique plus libérale après les crises économiques des gouvernements travailliste a été parfaitement exprimé, mais sans dire un mot, par Buckingham Palace. Et donc, ce que fait Charles là, quelque part, et c'était assez politique, parce qu'il a cité les infirmières. Ouais. Les infirmières étaient pour la première fois de leur existence en grève en Grande-Bretagne, et ça a aussi fait quelque chose qui a choqué le pays. Et donc, ça veut dire il y a un contrepoids moral qui ne s'aventurera jamais dans la politique, mais qui est assuré et qui a une continuité. D'accord. De la famille
Elle
royale.
A une utilité.
C'est pour ça qu'on a une famille royale. C'est le rôle constitutionnel défini au XIXe siècle, c'est que le monarque a le droit de conseiller. D'accord. Et d'avertir. Et ça, c'est pas un avertissement constitutionnel, mais c'est un début d'avertissement.
Alors, soit pour les Anglais, avoir une famille royale, ça peut avoir des avantages. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque, en revanche, que les Écossais, ce qui constitue le Royaume-Uni, que l'Irlande du Nord, et même que les pays du Commonwealth commencent à se détacher de plus en plus de cette figure royale de la monarchie qu'incarne le roi Charles III.
Il faut prendre les choses dans l'ordre. Vous avez terminé par le Commonwealth, c'est là que le problème se pose, parce que dans le Commonwealth, qui est donc une union de 54 pays qui sont pour l'essentiel d'anciennes colonies britanniques. Il y en a quelques-uns qui commencent à se détacher de la couronne. La Jamaïque, la Barbade, qui font des référendums pour devenir des républiques. Ça s'est fait du vivant d'Elisabeth II dans les dernières années de son règne, mais ça s'accélère depuis la transition. Donc il y a plusieurs, particulièrement aux Caraïbes, hein, donc des États, des petits micro-États qui se demandent pourquoi finalement ils gardent ce souverain de l'autre côté de l'océan et qui réfléchissent ou qui mettent en branle le processus pour devenir des républiques. Au sein du Royaume-Uni, le problème n'est pas lié à la couronne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défiance vis-à-vis de la monarchie en Irlande du Nord, certainement pas, et en Écosse non plus. Le problème, il est plutôt lié au Brexit et à l'évolution de la politique britannique. Moi, je ne suis pas convaincu, et d'ailleurs, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, est en assez mauvaise posture, puisqu'elle voulait faire un nouveau référendum sur l'indépendance, et la Cour constitutionnelle, la Cour suprême britannique, lui a refusé cette possibilité. Donc ce n'est pas demain la veille qu'ils vont faire un référendum sur l'indépendance, et s'ils le faisaient, c'est pas du tout sûr qu'ils le gagneraient. Mais il y a une insatisfaction très, très grande en Écosse par rapport au Brexit. Et c'est aussi le cas en Irlande du Nord. Et en Irlande du Nord, les forces sont différentes puisqu'il pourrait y avoir une unification avec la République d'Irlande. Mais ce n'est pas non plus demain la veille. C'est quelque chose qui pourrait prendre des décennies.
Alors, on l'a dit, c'est ce grand déballage, ces mémoires interviennent dans un contexte particulièrement trouble en Grande-Bretagne où il y a une multiplication des grèves. Alors, on a parlé des grèves des infirmières, mais tout comme en France, pendant les vacances de Noël, il y a eu des grèves du rail. Et vous allez le voir, il régnait comme un parfum de France dans les gares londoniennes. Voyez ce reportage à Londres de Julie Vitaline et de Léna Soudre.
Victoria Station, l'une des gares les plus fréquentées de Londres, aujourd'hui complètement déserte. Ces grilles fermées bloquent le passage des voyageurs qui ont dû trouver des alternatives.
On essaye d'aller à Birmingham, mais on est coincé. Il n'y a pas de train. Le métro fonctionne, mais ça reste compliqué d'aller où on veut aller.
Ça, à la base, on devait prendre le train. On avait plusieurs métros à prendre, un train à prendre, des métros à prendre, etc. Mais en fait, oui, c'est juste une fois sur place. Impossible, en fait, il n'y en avait pas.
Grève inédite des cheminots anglais aujourd'hui. Tous les trains du pays restent à quai, même les Eurostar qui relient l'Angleterre à la France. Un débrayage de plus parmi les nombreux mouvements sociaux en cours au Royaume-Uni que certains Londoniens ont du mal à accepter.
Paralyser les transports, je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'obtenir ce qu'ils veulent. Il y a d'autres moyens à considérer.
Les infirmières, je les soutiens, mais je ne suis pas pour les grèves. Je ne pense pas que ça fera plier le gouvernement.
Alors, Florentin Collomb, il y a tellement de grèves en ce moment en Grande-Bretagne qu'il paraît que ce qui fait fureur, c'est le calendrier des grèves du mois de janvier. Alors, je les cite. Du 3 au 7 janvier, il y a eu la grève du rail. Vendredi dernier, grève des autoroutes, grève des inspecteurs du permis de conduire. Demain mardi sera grève des instituteurs en Écosse. Mercredi, grève des ambulanciers. Et puis dans la foulée, les infirmières prendront le relais, on l'a dit. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne ?
Il y a une contestation sociale très forte pour demander des rattrapages salariaux, hein, parce que l'inflation est très forte, comme dans le reste du monde et le reste de l'Europe. Elle est plus élevée. Elle est
11%.
Voilà, 10-11%. Les syndicats qui ont été très, très affaiblis en Grande-Bretagne depuis les années le mandat de Margaret Thatcher ont repris du poil de la bête. Ces grèves sont plus ou moins populaires. Évidemment, quand tous les trains sont paralysés, c'est pas forcément très populaire, mais il y a un relatif soutien ou compréhension dans l'opinion. Et les syndicats sont en position de force parce qu'ils peuvent réclamer. Il y a eu des augmentations très significatives dans certains secteurs. Hein. Certains, par exemple, compagnies de bus à Londres ont donné 11% d'augmentation. Donc ça fait un petit peu boule de neige. Les autres corporations demandent des augmentations similaires. Et le problème du Royaume-Uni, peut-être par rapport à nous, c'est qu'il y a un chômage très très faible, moins de 4%, et qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre beaucoup plus importantes qu'ici. en particulier depuis le Brexit, puisque une grande partie de la main-d'œuvre européenne, qui était une sorte de marge de manœuvre, hein, de soupape pour l'économie britannique, n'est plus là. Donc les entreprises sont à l'os, ne peuvent pas recruter et sont obligées, en tout cas, d'instaurer le dialogue avec les syndicats pour négocier. Et le Premier ministre joue une partition un petit peu compliquée, parce que d'un côté, il a annoncé la semaine dernière un durcissement du droit de grève qui est déjà très très difficile, très dur, très restrictif au Royaume-Uni. Et de l'autre, il appelle les syndicats à venir dialoguer avec lui pour essayer de sortir de cette situation. On ne voit pas très bien comment la situation va se régler dans les semaines à venir.
Et c'est vrai qu'Anne-Elisabeth Moutet, c'est un article du Monde qui faisait remarquer que oui, il y a des pénuries de main-d'œuvre et du coup, les syndicats redécouvrent leur pouvoir de négociation parce que depuis le Brexit, autrefois, on faisait venir des chauffeurs routiers de Pologne, on faisait venir d'Ukraine, des infirmiers. On se souvient que l'infirmier qui s'occupait de Boris Johnson, j'ai revu ça dans la série là, This is England, venait du Portugal. Bah, c'est fini toute cette main-d'œuvre européenne depuis le Brexit. Et du coup, paradoxalement, ça a redonné du pouvoir aux salariés, ça, cette absence de main-d'œuvre bon marché venue d'Europe.
Alors oui, encore que bon, les gens qui étaient là avec des postes salariés, on les a pas renvoyés. Il fallait prouver les bulletins de salaire le prouvent, qu'on avait travaillé vécu en Grande-Bretagne plus d'une certaine période. Et donc ça allait. Mais effectivement, il y a ce problème. Et puis il y a aussi l'atmosphère de fin de règne d'un gouvernement. Il y a une espèce de ce qu'on appelle un orage parfait. Vous savez, il y a à la fois une série de premiers ministres successifs qui font qu'on a l'impression que si on pousse, ça peut retomber de nouveau. Le fait que Rishi Sunak qui est un techno parfait, qui a beaucoup de choses en commun avec Emmanuel Macron, pas tout, mais certaines choses en commun. Il n'y a pas le contact populaire qu'avait un Boris Johnson, même si c'était complètement fabriqué par Boris lui-même. Mais la réalité très simple, que quand on va faire ses courses, et j'étais en Grande-Bretagne au moment des fêtes, et donc je suis allée acheter des choses pour les gens avec qui j'étais, et je peux vous jurer que c'est aussi terrifiant que dans les supermarchés français. Et il y a l'équivalent, c'est-à-dire on ne trouve plus, à la fois on ne trouve plus tout ce qu'on pouvait trouver avant, qui sont plutôt des problèmes de chaîne logistique, et d'autre part, les prix ont bondi. Alors ça, c'est une chose très importante. Je dirais qu'il y a une chose qui a beaucoup choqué en Grande-Bretagne et qui probablement n'est pas populaire, même si les gens ont applaudi le personnel soignant, à commencer par le prince William et Kate, c'est les grèves d'infirmières et d'ambulanciers, parce que dans un système...
Bah, 66% soutenu par 66% des Britanniques.
Dans un système médical, je vais vous dire, il y a des morts maintenant à cause de ça, parce que déjà, le système était à bout de force. Les ambulances qu'on attendait 8 heures, les médecins généralistes qu'on ne peut voir que par téléconsultation, les 6 mois qu'on attend pour faire l'examen qui vous prouve que depuis 6 mois, le truc qui vous faisait mal, c'était un cancer, etc. C'est monnaie commune dans le NHS. Donc l'effet d'une grève des personnels soignants, qui est quelque chose qui n'était jamais arrivé, ça n'est pas populaire du tout. Et il va y avoir 2 ou 3 tragédies qui vont être symptomatiques. Ça va être le Malek ou Sekin de ces grèves-là. Et ça n'est pas soutenu. Pour le reste, les gens comprennent bien.
Bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Stephen Clark n'est pas d'accord, estimant que ces difficultés préexistaient à la grève et que c'est vrai que justement son agissement...
C'est un problème de financement du système. J'ai un beau-fils qui travaille aux urgences et qui travaille plus d'heures qu'avant, qui travaille avec des infirmières, qui travaillent beaucoup plus qu'avant, mais qui doivent maintenant payer leur place de parking. Ah ouais. 1300 livres par an, donc c'est un manque de financement, c'est ça.
J'avais une question, moi, parce que ça nous passionne et malheureusement, il reste peu de temps. L'opinion publique britannique sur le Brexit. Pendant longtemps, on a dit mais non, arrêtez, ça sera à refaire, les Anglais ils revoteraient pour le Brexit. Sauf qu'on a l'impression que c'est en train de tourner. Il y a ce sondage, là, The Independent, 65% des Britanniques souhaiteraient organiser un nouveau référendum sur l'appartenance du pays.
Oui, c'est très simple à dire, mais le problème, c'est que c'est vachement difficile de réorganiser un référendum. C'est aussi c'est un grand problème médiatique en Angleterre parce que les travaillistes essaient de travailler l'opinion publique en ne pas parlant du Brexit, tandis que les gens veulent en parler. Et la force...
Quel est le rapport des Britanniques avec ce Brexit?
Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup maintenant qui se rendent compte qu'on leur a menti. On leur a dit que le système médical aurait plus de financement, mais
le fameux bus de Boris Johnson, exactement. L'argent qui allait à Bruxelles ira à la Sécu.
Bon. Et c'était complètement faux. Et beaucoup de gens ont compris maintenant que c'était faux. Beaucoup de petites entreprises qui ont exporté vers l'Europe ou qui importaient ont fait faillite. Donc les gens voient les effets. Mais C'est comme si les médias ou les politiciens, les ministres, quand ils vont dans des interviews, ils veulent pas parler du Brexit. Ils disent « Ah non, c'est l'Ukraine ou c'est le virus ». Mais les gens veulent parler. Et la force en ce moment des syndicats, la raison pourquoi ça remonte, et pourquoi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de soutien pour ces... Moi aussi, j'y étais à Noël. Il y a beaucoup de soutien. C'est parce que les syndicalistes qui parlent maintenant dans les médias, ils sont super francs. Ils disent les choses hyper clairement. Ils embarrassent les journalistes qui ne veulent pas être partisans à l'antenne en disant « Mais non, ça c'est faux, ce que le ministre vient de dire est faux. » Et voilà pourquoi. Ils parlent hyper bien. Et je suis désolé, mais ça, les Britanniques sont pour ça parce qu'ils en ont complètement marre maintenant. Mais le problème avec le Brexit, c'est que c'est très flou. On nous a menti, est-ce qu'on nous ment encore? Les gens ne savent pas quels sont les rapports avec l'Europe et ne savent pas encore.
C'est ça l'info, c'est clair. On commence avec les révélations d'Harry sur sa virginité et on termine avec le Brexit et la complexité d'un débat. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info, c'est clair. Bonne journée et God save the King maintenant, hein, comme on dit à Londres. Bonne journée, à demain.